Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, disons qu'on sent le face-à-face entre le gouvernement du Québec et la ville de Montréal. Hier, la mairesse, Mme Plante, a dit qu'on avait ignoré la crise du logement. Le premier ministre a répondu, on vous donne de l'argent, puis vous n'êtes pas capable de tout dépenser. Et l'Office municipal d'habitation, c'est un paquet de troubles. Alors, est-ce que Mme Plante a raison de gronder le gouvernement, Luc?
Oui, 100% raison. C'est vrai que Mme Plante a ses défauts, là. Tu sais, cette affaire-là d'avoir maquillé des logements qui allaient être construits en logements construits, ça, c'était pas sympathique. Puis elle a fait ça pour son électorat parce que ça va tellement moins vite qu'elle voulait. Et comme elle a mis beaucoup d'argent là-dedans, puis beaucoup de promesses, elle a essayé un peu de gonfler la réalité. Mais sur le fond des affaires, c'est Legault qui a tort 100% 100 000 à l'heure. Ça y a pris jusqu'à à juin 2022 ou avril 2022 pour annoncer qu'il y avait une crise du logement, pour reconnaître qu'il y avait une crise du logement. Parce que la crise du logement, c'est quand t'es arrivé dans les régions qu'il l'a vu. Quand t'étais à l'intérieur des sur l'île, il voyait pas, lui, la crise du logement. Et il y a quelque chose qui me frappe, c'est ça, de plus en plus, c'est son côté manipulateur. Hier, sa déclaration en disant... ben là, il faut en garder pour la classe moyenne. On va pas tout donner aux pauvres, la pauvre classe moyenne. Écoute, franchement, le cinéma, toi. Premièrement, là, sa promesse de réduire un point d'impôt jusqu'à 92 000 $ des revenus de 92 000 $ on l'a dit hier, là, ça va coûter autour de 30 milliards de dollars sur 10 ans. 30 milliards de dollars. Sur le logement, à ma connaissance, il met presque rien. C'est dur de je peux pas l'affirmer parce que c'est très très difficile de faire le lien entre les annonces, la façon dont elles sont formulées, les dons qui sont faits par la contribution du fédéral, la répétition des annonces, si c'est un nouveau montant, si c'est un ancien montant. Mais moi ce que j'ai compris, il avait dit qu'il ferait 15 000 logements sociaux parce que c'est des logements qui étaient bloqués parce que les gouvernements précédents avaient pas augmenté le coût de construction permis pour les logements. Fait que tu pouvais pas construire sur l'île de Montréal pour la bonne raison que le coût de construction qui était donné par porte était trop bas. Et là, il dit, ah, c'est parce que la ville de Montréal a manque de volonté. Non, c'est le coût de construction qui est plus élevé que le montant que tu donnes. Ça, c'est un. Puis deuxièmement, là, il a fait débloquer 15 000 logements avec deux enveloppes de 900 millions de dollars chacune. Mais ces deux enveloppes de 900 millions de dollars chacune, dont une est annoncée au budget qui vient de se produire, correspondent exactement aux 1,8 milliards de dollars qu'il a signé l'entente avec Ottawa en 2021. Moi, je ne sais pas combien d'argent neuf il a mis là-dedans.
Ouais, c'est une bonne question. Tout d'abord, sur la sortie de la mairesse, ça prend beaucoup de bagout de faire ce qu'elle a fait. Rares sont les occasions où le maire ou la mairesse de Montréal fasse une sortie d'une telle intensité parce que il y avait énormément de conviction derrière la sortie de la mairesse. Elle a dit la crise du logement, c'est du vrai monde. On voit la détresse, c'est ce qui est dur. Elle a dit il y a 24 000 personnes qui sont en attente de logements sociaux à Montréal. Et hier, elle a pas fait cette déclaration dans le cadre d'une mêlée de presse, là, à l'improviste, là. C'était bien organisé derrière son lutrin et la Ville de Montréal, son administration est allée plus loin que ça hier. En fait, il y a eu un tir groupé contre le gouvernement. Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif, a fait plusieurs entrevues. Elle a dit quelque chose qui m'a renversée au micro de Patrice Roy hier. Elle a dit pour les unités de logements sociaux ou abordables, elle a dit on calcule le prix des unités sur le prix de 2009. Depuis, il n'y a aucune indexation sur la subvention qui est versée par le gouvernement. Alors, ce qu'elle a dit, c'est qu'on n'a jamais assez d'argent pour concrétiser les unités qui nous sont accordées. Et deuxièmement, elle dit sur 1800 logements qui sont en attente à Montréal d'être réalisés, il nous manque 314 millions pour les réaliser et le gouvernement nous donne seulement 80 millions. Sa conclusion, avec le quart des moyens, on réalise le quart des engagements. Ça, c'est une réplique cinglante. Cinglante. D'ailleurs, moi, je tombe en bas de ma chaise parce que comment on peut offrir des subventions sur le coût d'une unité
2009.
Qui datait de 2009? C'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Alors, la réplique du gouvernement hier, à la sortie de la mairesse Plante, a été très facile et d'une certaine manière odieuse. Odieuse parce que on n'a pas dit la vérité. La vérité, c'est celle qu'a révélée Dominique Olivier au micro de Patrice Roy. C'est celle à laquelle se référait l'espèce de bordel là, qui règne dans les programmes. La gestion, il doit y avoir une vingtaine de programmes, j'imagine, à la SHQ. Qui met quoi? On est rendu où? C'est impossible de s'y retrouver. Le gouvernement s'est engagé en 2018, tu parlais de 14 000 logements. Construits ou en chantier, il y en aurait 9 000. Là, dans le dernier budget de hier, là, c'est quoi, avant-hier, c'est mardi, on promet 5 200 unités sur 5 ans. Moi, j'ai connu des époques où on annonçait à chaque budget 3 200, 3 500 nouvelles unités. Là, on nous dit 1 500 nouvelles unités sur 5 ans. T'as une minute, là.
Mais tu sais, c'est quoi? C'est que le choix de Legault, il est clair. Le choix de Legault, c'est la classe moyenne. Puis il l'a dit, puis il passe par eux. Puis là, en plus, il donne de l'argent à Montréal. Il se fait élire pour autant?
Non.
Fait que son calcul, là, c'est crever la bouche ouverte.
Puis l'autre chose qui me frappe, c'est. Ben, je dis silence.
Mais t'as une crise du logement pareil dans des comtés de la CAQ.
Oui, il y a deux comtés de la CAQ à Montréal. Hein.
Non, mais même à l'extérieur. Là.
Ah, mais oui, là, elle est rendue là en partie grâce aux bons soins des Montréalais. C'est parce que un instant, mais juste rapidement.
Vas-y.
Les gens qui vont en Gaspésie, là, puis ou n'importe où ailleurs, dans Bois-Franc, dans un canton de l'Est, s'achètent une maison cash à 950 000 $ là, c'est pas de l'argent qu'ils ont épargné. Là. C'est parce qu'ils ont vendu leur maison sur le plateau Mont-Royal qui avait payé 200 000 puis ils ont revendu 1 million. 800 000 $ non imposables. Avec ça, t'es le roi du Québec avec ça. Parce que ça, c'est une autre particularité. Là. C'est cette espèce de gap entre... ta maison principale n'est pas imposable. D'accord. C'est correct, c'était ça le véhicule. Le véhicule de l'économie des Québécois, ça a été ça. T'es une famille, t'achètes une maison, t'économises, à un moment donné, elle t'appartient. C'était ça le véhicule. C'est parfait, c'est correct. On l'impose pas. Le problème, c'est que tu peux changer de résidence principale à tous les ans. T'achètes une maison, tu fais un bénéfice de 200 000, c'est ta résidence principale. L'année suivante, c'est une autre qui va être ta résidence principale. Comment ça se fait que ça n'a pas été changé, cette affaire-là?
Ouais, ben, tu reviens souvent sur cette question-là. Une taxe à la valeur ajoutée ou je ne sais trop. Là.
Ou alors, au moins, de pas laisser les gens changer de résidence principale tous les ans.
Mais c'est pas, excuse-moi, Paul, mais les gens ne changent pas de résidence principale
tous
les ans.
Non, sur papier. Ouais, t'as un chalet, t'as une maison, OK?
Oui, mais ça, c'est marginal,
ben,
selon moi.
Ça.
Ben, moi je, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a quoi, 40 % des Québécois qui sont locataires au Québec? Je pense que c'est autour de 60-40.
Mais j'aimerais poser une question comme contribuable.
Vas-y.
Non, mais c'est parce que là, on parle du logement. Puis je peux vous parler des écoles aussi. Parce que hier, le premier ministre a dit qu'il n'était pas sûr que les écoles étaient si maganées que ça. Là. Comment ça se fait que, par exemple, on annonce la construction d'une nouvelle école? Ça prend 3 ans avant de commencer. Comment ça se fait qu'on annonce des logements qui ne se font pas? Si c'est une question de financement, la ville attend quoi pour le dire?
OK, moi, je vais te compter ça vite fait, bien fait. Ben, c'est pas si vite que ça. Excuse-moi, Nathalie. Est-ce que, Nathalie, tu voulais rajouter quelque chose avant que je
vais m'exprimer, M. Ferrandez, après vous.
OK, garde.
La parole
la ville,
est
au... Bon, regarde. La ville veut plus se faire fourrer depuis les questions de corruption puis collusion puis tout ça. Alors, elle fait une évaluation des travaux pour toute chose. Mais le gouvernement fait pareil. Tu fais une évaluation des travaux. Ça va coûter de temps pour faire l'école. Là, après ça, tu t'en vas en soumission. Tu reçois les soumissions, ils sont 2 fois plus chers que le coût que t'as évalué. Le coût que t'as évalué, là, c'est un coût précis, là. Béton, le coût du béton à la date de l'évaluation, le coût du bois à la date de l'évaluation, combien ça prend de temps pour monter un mur. Premièrement, ça prend un temps fou faire ça. Puis ça prend un temps fou parce que t'arrêtes pas de le changer, en plus. Parce que le gars qui a fait la commande pour l'école ou pour la rue ou pour le logement, il revient 3 fois dire oui, mais je peux-tu rajouter une pièce? Oui, mais on peut-tu faire ci? Puis là, à un moment donné, réévaluation. À un moment donné, boum, tu pars en appel d'offres. Tu reçois les soumissions, ils sont 2 fois plus chers. T'arrêtes tout.
Non, mais ajoutez à ça, parce que je reviens à la déclaration de Dominique Olivier hier, la présidente du comité exécutif à RDI. C'est fondamental. En fait, on se questionne pourquoi on n'arrive pas à livrer les unités qui sont promises. C'est parce que le financement ne suit pas. Oui, il y a l'enjeu lié au temps que ça prend pour la ville de trouver et d'acheter des terrains. C'est lié au temps que prend la ville pour émettre les permis. Mais fondamentalement, tu peux pas financer une unité de logement abordable en 2023 avec une subvention qui, elle, est établie en fonction des coûts de construction de 2009, c'est impossible. Alors, quelle est la
réponse?
Pourquoi
est-ce qu'ils ne disent pas avant?
Non, mais...
Ils attendent quoi? Ils ne veulent pas choquer Québec? Ils veulent...
Ah, c'est parce qu'ils traficotent. Les groupes de recherche technique, ils se disent, ouais, mais il y a un fonds qui te permet de subventionner 10 % de ton logement si tu fais de l'innovation verte. Ah, on va aller chercher cet argent-là. La ville pourrait peut-être nous donner un petit peu d'ici, un petit peu là. Fait que là, le montage financier prend 1000 ans.
Oui, c'est sûr. Là, je suis d'accord avec toi là-dessus. En fait, le vérificateur général du Québec a dit en octobre 2020, ça prend en moyenne 3,5 années livrer une unité de logement social.
C'est incroyable. C'est quand tu y penses, là.
Oui, incroyable. Mais c'est parce que...
Mettez vos culottes, faites un vrai programme, Simonac.
Oui, ben voilà.
Ben, mais il y a le PAHQ, là.
Oui, ben c'est ça. Là, la ministre a annoncé, elle dit, ben là, ça prend trop de temps à construire, fait que on va mettre de côté CLOJ, puis on va construire, on va inventer un autre programme. Mais pendant ce temps-là, on ne règle pas le fondamental qui est dû la subvention qui est calquée sur des coûts de 2009. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Ah. De la part de la bouche d'une élue à Montréal. Je pense qu'on a tous la même réaction autour de la table ce matin. Là.
Ben oui.
Le programme est vicié à la base. Et silence. Puis la ministre de l'Habitation, je vais vous le dire, d'après moi, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Puis, non, mais je te jure, Luc, selon moi, elle ne le sait pas. Écoute, son silence, je l'ai entendu une courte réaction hier à la télévision. Elle avait dit, écoutez, 1500 cette année, il y en aura d'autres l'année prochaine, puis les années suivantes, puis ça va bien aller.
On va s'arrêter pour la pause. Est-ce que le troisième lien est aux soins intensifs? Il n'arrête pas de rire.
Il arrête. Il doit être content. Très content.
Bon, est-ce que le projet est enterré? Est-ce que le crématorium est fonctionnel, prêt à recevoir les études? D'ailleurs, les études, ça tarde, ça.
Avril.
Fin avril.
Ne découvre d'un fil.
Oui. On va voir ça. C'est le sujet après la pause.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, c'est Nathalie qui va amorcer la discussion sur l'état de santé du projet Troisième lien de Québec. Et il n'y a pas un mot dans le budget, pas un sou. Alors, est-ce que c'est un signe annonciateur?
les spéculations vont montrer, n'est-ce pas? Celui qui a le mieux résumé la situation, c'est Marc Tanguay, hier à l'Assemblée nationale, le chef du Parti libéral du Québec, qui parlait du troisième lien comme le projet fantôme. Où est Charlie? Où est Charlie? J'ai vérifié, là, dans le budget, effectivement, il n'y a absolument rien. La seule mention qu'on fait du troisième lien, c'est dans le PQI, le Programme québécois d'infrastructure. Puis on le classe dans les projets en planification pour 20 millions et plus. Ça veut dire que ça réfère aux études. D'ailleurs, 59 millions de dollars qui ont été investis dans les études jusqu'à maintenant. Les fameuses études, selon moi, techniques, qui vont arriver quelque part fin avril. Mais là, on se questionne comment on peut rendre public les études techniques, les résultats de ces études, sans avoir au préalable partagé les résultats de l'étude d'opportunité. C'est comme ça on mettait la charrue avant les bœufs. Alors, c'est un dossier qui, bien honnêtement, devient de plus en plus embarrassant pour le gouvernement. Embarrassant, puis j'oserais même dire que c'est peut-être en train de devenir un boulet dans le pied de la CAQ. Embarrassant, un, pour la faisabilité technique du projet. Écoute, c'est jamais vu, là. C'est du jamais vu ce qu'on souhaite faire. Un tunnel de 19,4 mètres sous le fleuve Saint-Laurent. Embarrassant pour les coûts estimés. On a parlé de 6,5 milliards, mais y a-tu quelqu'un qui croit au Québec qu'on peut faire un tunnel?
On vient de rajouter 1 milliard au tunnel de la Fontaine.
Ben voilà. Oui, c'est ça, le pont de l'île aux Tourtes également. Embarrassant pour la division qu'il suscite, parce qu'à Québec, c'est sûr qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont... En fait, dans la grande région de Québec, incluant la Rive-Sud, là, il y a plus de gens qui sont favorables au troisième lien qu'au tramway. N'empêche qu'on dirait que cet appui s'effrite et le refus du fédéral également de financer le projet. Je pense que ça peut ajouter à l'embarras du gouvernement qu'on ressent de plus en plus. Monsieur Legault commence à être agacé à parler du troisième lien.
Moi, j'imagine la conversation suivante dans 20 ans. Mon père prend sa retraite. Ah oui, il faisait quoi, ton père? Ben, il faisait des études sur le troisième lien.
Tout ce temps-là, faire des études.
Il n'est pas encore fini. Il y a quelqu'un qui a pris sa place.
Ben, en plus, il y a une étude qui est sortie, ça fait quoi, une couple de jours, qui dit que la circulation sur le pont Pierre-Laporte a été mesurée puis est en retrait de 13 % par rapport à 2019. Fait que ça donne pas bien non plus, là. Il y a eu une croissance. Donc, le télétravail n'a pas entraîné une réduction de la circulation partout, sur tous les axes, mais oui, nord-sud à Québec. 13 %. Donc ça pour ça que l'étude d'opportunité, ils doivent la peaufiner avant de la sortir. L'autre affaire, tu as mentionné le fédéral qui embarque pas, puis c'est drôle, mais Geneviève Legault qui dit Geneviève Guilbeault qui dit non, le fédéral va embarquer. Non, c'est un projet qui concerne Québec. Québec y tient, puis compte tenu de ça, ben, le fédéral va embarquer. Attends une minute.
Pour le transport collectif, peut-être, mais
oui,
c'est
mais,
possible,
mais pour le troisième lien, Québec y tient. Québec tenait beaucoup à l'immigration, tenait beaucoup au transfert de points de santé, de beaucoup de choses. C'est pas pour ça que le fédéral va dire oui. Et pour moi, le clou dans le cercueil, c'est la santé publique. La santé publique a fait l'étude sur la qualité de l'air dans Limoilou puis qui a dit une grande partie des particules fines qu'on pensait liées au transbordement du nickel dans le port est en fait liée à la circulation automobile. Puis c'est là qu'il va sortir le troisième lien. Alors, même si les voitures électriques sont électriques, t'as quand même beaucoup de particules fines liées à la circulation automobile, l'usure des pneus, l'usure de l'asphalte, l'usure des freins, etc. Je peux pas imaginer un logo qui a passé 2 ans à dire, ben là, j'écoute la santé publique. Mais moi, j'écoute la santé publique. La santé publique me dit que, alors je fais ça. Et là, non, la santé publique, ça m'intéresse plus. Je vois pas comment il va faire.
Ben, les gens dans le secteur de Limoilou, avec l'enjeu de des poussières rouges, la poussière rouge, ils veulent absolument rien savoir. De voir un plus grand nombre de voitures circuler dans leur quartier, un. Deuxièmement, dans les études de faisabilité là, qui sont réalisées actuellement, le scénario de l'île d'Orléans, ce que je comprends, est toujours dans les cartons.
Ah oui?
Ouais, ce que je comprends. Okay. Mais peut-être qu'ils vont infirmer ou confirmer lorsque les fameuses études seront rendues publiques. Mais lorsqu'on a dit tout ça, là, moi, la fille qui vit même sur la rive sud maintenant de Québec, il y a quand même une réalité qui demeure, c'est la vétusté du pont Pierre-Laporte et du pont de Québec. Le pont Pierre-Laporte, là, il a 52 ans. Il y a 125 000 véhicules qui circulent là tous les jours. Là, on est dans une vaste opération de changer les suspenses du pont Pierre-Laporte. On avait un échéancier de 15 ans. Le ministère a dit, on rétrécit à 6 ans parce que l'état de vétusté des suspenses qui permettent, qui sont rattachées aux suspenses principales, aux câbles, deux gros câbles qui du pont de Pierre-Laporte, là, ben, elle s'érode plus rapidement que prévu. Alors, même chose, le pont de Québec, il y a plus de 100 ans de vie d'existence. Alors, la question, c'est, quelle est la marge de manœuvre qu'on a pour rénover ces infrastructures qui sont extrêmement vieillissantes? Il y a une limite là à faire du neuf avec du vieux à un moment donné. Fait que si on règle pas la question d'un autre lien à Québec maintenant, l'enjeu va revenir sur la table dans 10 ans, 15 ans. Là. Ça disparaîtra pas, là.
Mais la construction d'un pont à cet endroit-là, pourquoi pas? Le remplacement d'un pont, pourquoi pas? Mais pour regarder les prix, là, le pont Champlain, il a coûté 4 milliards de dollars pour 60 millions d'usagers par année. Le tunnel, il est supposé avoir 3 millions d'usagers par année.
Ben, je comprends, Luc, mais n'empêche qu'il y a une question de sécurité. Parce que là, actuellement, il y a juste...
Le... Tu remplaces un pont par un pont. Ben, tu remplaces pas un pont par un tunnel.
Parce que le transport lourd peut juste passer sur le pont Pierre-Laporte. Il y a un incident sur le pont Pierre-Laporte. Oublie ça, là.
Mais ils peuvent faire un pont. Pourquoi pas? Ils font un nouveau pont. Ça va coûter 2,5, 3, 4 milliards. Ça ne coûtera pas 10, 12, 15 milliards.
Enfin, le
dos... Mais par définition, un pont, c'est moins cher qu'un tunnel.
Ben, par définition, en effet. L'autre chose, c'est que, tu sais, on peut bien là dire il y a moins de congestion, mais il y a un enjeu lié à la sécurité de tous les automobilistes qui empruntent ces deux infrastructures. Mais parce qu'on aborde toujours l'aspect du troisième lien sous l'angle de la congestion, mais il faut l'aborder d'abord avant tout sous l'angle de la sécurité.
Sécurité des infrastructures.
Oui, tout à fait. Puis la sécurité également de tous les citoyens qui empruntent ces deux infrastructures qui sont, je le répète, extrêmement vieillissantes.
Hey Nathalie, est-ce qu'il y a des appuis pour le troisième lien à Québec?
Oui, il y en a.
Parce que là, tu sais que... Bruno Marchand, il a dit, j'attends de voir les études, mais on sent que il est pas chaud, là.
Mais non, lui, il pousse sur son tramway.
Après ça, la santé publique est contre. Il n'y a pas un expert qui est sorti. Une fois, ils ont sorti un géographe qui avait dit, moi, je pense que ça va être, c'est important. Mais à part ça, il n'y a pas un expert en transport ou en urbanisme. C'est pas une université, un centre de recherche. Personne. Mais c'est qui les appuis? Il y a le maire de la bourgade de Lévis, mais à part ça.
Non, mais il y a des ministres qui ont joué leur siège là-dessus. N'oubliez pas, Éric Kerr, Geneviève Guilbeault, entre autres, Jonathan Julien. Cette promesse était faite en 2018. Ça a permis à la CAQ de rafler à peu près tous les comtés dans la grande région de Québec, Rive-Nord, Rive-Sud. L'autre chose, c'est que depuis 2018, le monde a changé. Là, tu as référé tantôt, il y a eu la pandémie, entre autres. Il y a eu le télétravail qui est devenu presque un mode d'organisation. Ben, pas presque, qui est devenu un mode d'organisation pour bien des gens. Alors, cette réalité-là, il faut en tenir compte. Tu parlais de diminution du trafic de quoi? 13% sur le pont Pierre-Laporte. Alors, est-ce que l'étude d'opportunité va-t-elle tenir compte de cette nouvelle réalité? La question est posée.
En tout cas, y a un des éléments techniques là, qui milite pour un pont plutôt qu'un troisième lien, c'est des pentes dans le troisième lien. Avec des pentes de 4%.
Oui.
Et C'est un trajet de 10 minutes sous l'eau. Là. À 10 minutes sous l'eau, beaucoup de possibilités d'accrochage, beaucoup de gens qui vont refuser de le prendre aussi.
Exact.
Et comme c'est en profondeur, c'est un roller coaster, donc il va y avoir des accrochages. Tu vas être pogné dans un tunnel qui fait, à sa partie la plus longue, 8 km de long, au milieu de cette affaire-là, très, très, très profondément, avec des gaz d'échappement. Je suis pas sûr, moi, que c'est un projet gagnant.
Ben, d'une part, puis d'autre part, est-ce que le gouvernement va se lancer dans une opération où on n'a pas le plein contrôle des coûts? Est-ce que le troisième lien pourrait devenir l'éléphant blanc de la CAQ? Moi, je pense que probablement que M. Legault...
50% de plus pour le pont de l'île autour, 50% de plus pour le tunnel La Fontaine.
Alors. D'ailleurs, comment se fait-il qu'on était capable de mener des grands projets au Québec sans avoir un coût estimé qui tienne la route du début jusqu'à la fin?
Rappelle-toi le métro de Laval. On avait oublié un petit bout dans les calculs. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a une auditrice qui me soulève un très bon point. Il y a un programme du gouvernement du Québec. Quand tu achètes une maison neuve puis qu'il y a des taxes à payer, dépendamment de la valeur de la maison, tu peux obtenir un remboursement de taxes, donc pour des maisons moins chères. Le programme actuel dit que le prix de la maison neuve doit être entre 250 et 300 000. D'après toi, il y en a combien de maisons neuves?
Il y en a plusieurs, elles servent à faire de la pêche à Saint-Anne-de-la-Pérade, mais sont sur l'eau.
Non, mais tu comprends.
Il n'y en a pas de maison neuve.
Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas ajusté les prix depuis. Tu comprends? C'est un programme bidon dans le sens qu'il existe, mais il est comme caduc.
Ça relève de. Est-ce que tu as dit ça relève de quel? Qui gère ce programme-là? Tu ne sais pas?
Bon,
ben, message à tous ceux et celles. Mais non, mais il n'y a personne qui construit une maison neuve à 250 000, 300 000. À moins que tu aies un petit bungalow, peut-être en région.
Ah oui, peut-être quelques-uns.
En région.
Mais.
En région.
Les matériaux de construction avec le coût de la main-d'œuvre.
Oh oui, je suis d'accord.
Va être difficile. Merci.
C'est 23.